m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui, avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue sur l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Vendry de Guerpel. Merci pour votre fidélité en ce jeudi de l'Ascension. Merci à vous, Vendry, d'être venu malgré l'aspect férié de cette journée. En tout cas, énormément d'invités qui sont rendus disponibles. Dans quelques instants, nous recevrons le journaliste et politologue franco-camerounais Charles Onana. Avec lui, nous allons revenir un petit peu sur ce périple africain d'Emmanuel Macron et sur sa vision assez particulière de la francophonie. Nous recevrons ensuite Nicolas Boutin à 18h05. Avec lui, nous reviendrons sur les soubresauts, sur les suites de la mort de Quentin Derenck à Lyon. Puis nous recevrons à 18h45 Philippe Darentière, président de Notre-Dame de Chrétienté, cette association qui tous les ans lance des milliers de personnes sur les routes de Chartres. Avec lui, nous reviendrons notamment sur la nouvelle édition de ce pèlerinage de Chartres qui se tiendra la semaine prochaine pendant le week-end de la Pentecôte comme tous les ans. Avec lui, nous reviendrons aussi sur les premiers... Nous ferons un premier bilan peut-être du pontificat de Léon XIV et de sa position vis-à-vis de ce qu'on appelle avec beaucoup d'affection en France les tradis. Et nous reviendrons aussi évidemment avec Guillaume Bernard, notre politologue à 19h, sur l'élection présidentielle qui se prépare avec des dizaines de candidats qui se sont déjà déclarés. C'est bien simple, j'ai l'impression, Vendry, qu'il y a un nouveau candidat tous les jours en moyenne.
Toutes les semaines, on a son candidat, et c'est assez dingue. Oui,
voilà, on n'a pas vraiment fait le compte exact, mais on s'oriente quand même sur un bon vieux top 50 avec Guillaume Bernard. Nous reviendrons donc là-dessus. Nous reviendrons aussi sur son dernier ouvrage, un roman très sympathique sur Jeanne d'Arc, et puis nous reviendrons aussi sur les élections en Grande-Bretagne qui ont vu un grand remplacement politique celui-là. Mais tout de suite, nous allons avec Charles Onana parler Afrique et francophonie. Je rappelle, chers auditeurs, que cette émission est aussi la vôtre, que vous pouvez réagir par courriel à l'adresse courtoisie@rc.fr ou par téléphone au 01 46 51 00 85. Évidemment, nous lirons vos questions à l'antenne et nous y répondrons. Bonsoir, Charles Onana.
Oui, bonsoir.
Vous êtes politologue, vous êtes journaliste enquêteur, vous êtes aussi essayiste et éditeur. On peut citer vos deux derniers ouvrages, tous deux aux éditions du Toucan l'Artilleur, Holocauste au Congo, l'Omerta de la communauté internationale, un ouvrage préfacé par l'ancien ministre de la Défense de Jacques Chirac, Charles Millon, et Quand l'Afrique bascule. Charles Onana, vous avez suivi, comme beaucoup d'observateurs, ce voyage, ce périple africain d'Emmanuel Macron. J'ai envie de vous citer cette phrase: le précaré français en Afrique, c'est terminé. S'il fallait retenir peut-être une seule phrase de la tournée africaine d'Emmanuel Macron, ce serait celle-ci, Charles Onana.
Ben non, il y a eu beaucoup de phrases et beaucoup de bourdes également. Je pense que il est très compliqué de savoir. Bon, alors quand il dit le précaré africain, c'est fini, ça signifie d'abord qu'il entend par là qu'il y avait un précaré français en Afrique. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ce précaré tombe en lambeaux, tombe en miettes, et puis aujourd'hui aller se retourner vers les pays anglophones comme ça a été le cas à Nairobi, de reconstruire la francophonie dans un pays anglophone. Je crois que c'était un vaste programme. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. Donc pour moi, on est dans une situation qui est une situation des gestions du quotidien de façon approximative et je pense sans vision globale de la situation africaine et sans vision globale des perspectives qu'on veut donner à la France dans la fin de cette septennat.
Alors justement, vous avez un petit peu anticipé ma question, Charles Onana, mais le choix symbolique du Kenya, justement, un pays anglophone, symboliquement, c'est étrange d'acter la fin du précaré français dans une ancienne colonie britannique. On a vu d'ailleurs que même la BBC, la BBC, pardon, s'en était étonnée. À quoi vous attribuez ce choix, vous qui connaissez bien le continent?
Ben, je pense tout simplement que le choix est un désaveu je dirais, du côté de l'Afrique francophone. Monsieur Macron n'a pas su reprendre, je dirais, un peu l'héritage qui a été celui de ses prédécesseurs pour soit améliorer les relations entre la France et l'Afrique francophone, soit essayer d'innover ou d'apporter des choses originales pour permettre, n'est-ce pas, que ces relations sortent, je dirais, un peu du ghetto dans lequel elles s'étaient embourbées pour de nouveaux horizons, je veux dire, à la fois pour l'Afrique et pour la France. Donc, je pense qu'il y a eu un déficit d'imagination, de créativité, d'inventivité, eh bien, qui fait qu'on va quasiment improviser en construisant un nouveau socle dans l'Afrique anglophone, mais je crois qu'il ne, Monsieur Macron ne se rend pas compte que l'Afrique anglophone, c'est un mode de fonctionnement très particulier, avec un héritage anglo-américain qui est très particulier, sauf s'il s'inscrit dans une logique anglo-américaine ou anglo-saxonne qui peut justifier effectivement d'aller construire un nouveau socle ou un centre de gravité de la francophonie au Kenya.
Mais c'est un peu tout le paradoxe, Charles Onana, parce que la francophonie évidemment au cœur de ce voyage, et là on retrouve un petit peu, vu de France en tout cas, le docteur Manu et Mister Macron, quoi, puisque après avoir vanté le fleuve Congo comme nouvel épicentre de la francophonie, il a aussi glorifié l'arabe, deuxième langue parlée en France, d'après lui. C'est assez étrange, on a l'impression qu'on retrouve le Emmanuel Macron qui, pendant sa campagne présidentielle de 2017, va au Puy du Fou pour s'esbaudir de la culture française et qui, en meeting à Marseille, va dire « il n'y a pas de culture française ». Comment attribuer, d'après vous, cette espèce de... presque cette errance un petit peu culturelle du président de la République ?
Alors, il y a ce qu'on peut dire, passe de la francophonie à la cacophonie. Et donc, c'est compliqué, évidemment, d'abord pour les Français, de lire, je dirais, la grammaire francophone de M. Macron. Et c'est également très compliqué pour les Africains de savoir où se situe le point, la virgule et le début de la phrase. Donc, on est dans une configuration où je pense que le président Macron, en préparant ce voyage, il a probablement centré, je dirais, les préoccupations des relations internationales en positionnant la France dans des pays anglophones pour faire des affaires avec un certain nombre d'entreprises dont il se sent peut-être très proche ou qu'il a envie de promouvoir dans cette région. Mais je crois que avant de le faire, en plus, il part un peu, je dirais, sans avoir le GPS de ces régions. Parce que pour pouvoir s'en sortir dans le monde anglophone, eh bien, ce n'est pas parce qu'on vient avec le logo France qu'on pense que les portes vous seront ouvertes. Bon, pour les Kenyans et les anglophones des pays d'Afrique, ce serait intéressant pour eux, c'est curieux de voir ce qui va se passer, ce que la France a proposé. Mais ce sont des pays qui sont, je le répète, très compliqués. Et donc, si on ne s'en sort pas, je dirais, aisément dans les pays francophones, ça signifie que, à mon avis, ce qui aurait pu être, je ne suis pas un conseiller du président, je ne prétends pas avoir plus de choses à dire à ses conseillers ou à lui-même, mais je pense que dans une période où les Français s'interrogent sur la place de la France dans le monde et en Europe et en Afrique, et sur la position qui est celle d'un certain nombre de dirigeants africains qui ont rejeté, je dirais, la France dans les pays d'Afrique de l'Ouest, le meilleur moyen était de profiter de cette situation pour faire une réflexion de fond sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, tous les dysfonctionnements, de les mettre sur la table et essayer peut-être à partir de là de construire quelque chose de solide, quelque chose de transparent, à la fois parce que les Français ne savent pas très bien ce qui se passe en Afrique. Ils ont toujours l'impression que c'est très compliqué, c'est un véritable capharnaüm, mais en réalité, il y a beaucoup de choses. Vous avez dû entendre ces derniers temps les révélations qui sont faites sur les financements qu'on donne à des dirigeants politiques en Afrique. Enfin, l'Afrique est un véritable coffre-fort pour un certain nombre de dirigeants et d'entreprises françaises. Mais le problème, c'est que ni les Français ne sont au courant de ce coffre-fort, ni les Africains ne comprennent exactement qu'est-ce qui s'y passe.
Ouais.
Et je crois que c'est dans ce ghetto, je dirais, de la corruption, en fait, que naviguent actuellement les relations franco-africaines. Et on a du mal à sortir de là la tête haute et par le haut.
Une histoire d'intérêt mal compris. Mandry de Guerpel, quel regard vous avez porté sur ce voyage présidentiel ?
Moi, surtout, ce que j'ai retenu, c'est effectivement sa déclaration sur la francophonie. Et c'est assez amusant, parce que la même semaine, dans le Robert et le Larousse rentre entre les mots banger, charo, etc. Mm. qui sont des mots utilisés par la jeune génération, celle qui a mon âge à peu près. Donc pour vous situer, banger, c'est dire une chose réussie, charo, mm. c'est séduire, faire la cour, etc. Et je vois l'appauvrissement de la langue française qui est assez hallucinante. Dans la même semaine, on a BFM TV qui utilise l'IA générative pour écrire ses articles. Et donc, on voit bien qu'il y a un vrai malaise à propos de la langue française. Et je me suis assez amusé quand on a vu effectivement l'histoire de Florent Tardif qui explique que le couple Macron bat de l'aile parce que Macron aurait son cœur en Iran. Le premier coup de cœur d'Emmanuel Macron, ça reste quand même sa prof de théâtre qui lui a appris un peu l'amour de la langue française. Et donc j'en étais un peu déçu en réalité. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron revient dans la même veine que ses premières déclarations lorsqu'il expliquait qu'il n'y avait pas notamment de culture française, etc. Et je trouve ça assez triste pour notre pays.
Vous savez, Charles Onana, c'est assez curieux, puisqu'on voit de fait cette langue française, certains diront se moderniser, d'autres s'appauvrir, hein, ça dépend évidemment des points de vue de chacun, mais effectivement, quand on voit la façon dont Emmanuel Macron voit la langue française, on se demande si, est-ce que abaisser la France, en tout cas nier son rayonnement, c'est rendre service au partenariat, en tout cas aux relations entre la France et l'Afrique. Je vois pas du coup en appauvrissant volontairement, si vous voulez, la culture française, en tout cas en n'en faisant pas un porte-parole, on ne voit pas bien ce qui viendrait apporter à ces nations africaines anglophones.
Bien sûr.
J'aurais dû enregistrer le jingle, vous avez le slogan, vous avez raison.
Donc, je pense que il y avait beaucoup de choses à faire. Je pense que quand on parle de la francophonie, vous savez, dans les universités françaises maintenant, l'anglais a une place prépondérante, de plus en plus prépondérante, et aussi dans les grandes écoles françaises, de manière générale. On a l'impression que le complexe d'infériorité à défendre la langue française en France est devenu, je dirais, une maladie contagieuse pour tous les dirigeants politiques ou pour la plupart des dirigeants politiques, et en particulier avec M. Macron qui... de mémoire, de politologue, c'est le président de la République française qui a le plus, ces dernières années, je vois sur la 5e République, qui a le plus essayé de parler anglais à chaque réunion internationale ou dans des discussions au niveau européen. Mais alors qu'en réalité, on n'a pas besoin de président français pour parler anglais ou pour que la langue anglaise continue de prospérer. Elle prospère nécessairement sans lui. Mais ce qui peine à prospérer, ce qui a du mal à trouver sa place, y compris dans les grandes réunions internationales, c'est bien la langue française. Et donc, je pense que s'il y avait un travail en direction de cette promotion de la langue française au niveau international, et s'il y avait une valorisation, je dirais une très grande valorisation de la langue française dans les universités françaises, dans les grandes écoles, ça permettrait aussi que la langue française puisse avoir une place de choix au niveau international. Ce n'est certainement pas dans cette direction que les choses vont, et je ne crois pas que en répétant tout le temps for sure dans les relations internationales, on va contribuer à renforcer le rayonnement de la langue française dans ces conférences et dans les grandes réunions, notamment de la francophonie.
Vous êtes bien à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis en plateau avec Vendry de Guerpel, et nous sommes avec Charles Onana, politologue et éditeur franco-camerounais, auteur de deux ouvrages, notamment sur l'Afrique, sur l'Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale et quand l'Afrique bascule. Nous évoquons la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est en train de terminer son deuxième mandat, Charles Onana. 10 ans, c'est long à l'échelle d'un pays, et surtout c'est suffisant pour considérablement modifier justement les relations entre la France et le continent africain. Évidemment, Emmanuel Macron est toujours président de la République, donc il est peut-être trop tôt pour prendre beaucoup de hauteur, mais il est en tout cas profondément modifié. Sa politique vis-à-vis de l'Afrique a été une rupture par rapport à ses prédécesseurs.
Non, mais ce qui est pire dans cette histoire, c'est qu'en fait, c'est sous Emmanuel Macron que, je dirais, la France a définitivement signé son acte d'éjection et d'éviction, n'est-ce pas, continent africain et en Afrique francophone en particulier. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il cherche à aller courtiser un peu les pays anglophones pour essayer de voir si il est possible d'envisager quelque chose là-bas. Mais je pense qu'il y a une forme, dans cette situation, il y a une forme de paresse intellectuelle, de manque de courage politique pour pouvoir d'abord assumer un passé, peu importe d'ailleurs comment est ce passé-là, de l'assumer de façon avec autorité, avec clarté, et puis mettre tous les dysfonctionnements qui ont pu avoir lieu sur la table pour essayer de se tourner vers un avenir meilleur. Écoutez, quand la Chine vient pratiquement dans les pays africains prendre, occuper, je dirais, assez facilement les zones qui étaient les zones de prédilection de la France, et puis la Russie en Afrique de l'Ouest, où j'ai entendu plusieurs fois en France des gens dire que c'est Wagner qui était maintenant... Et 300 soldats de Wagner ont chassé 5000 soldats français en Afrique, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon d'analyser les choses. Donc, je crois tout simplement que les pays africains, dans un environnement où les relations internationales prennent, basculent effectivement d'un monde unipolaire vers un monde multipolaire, tant soit-il, on ne peut pas dire que le monde multipolaire est complètement établi, mais il est fortement en gestation. Et dans cette configuration-là, il y a besoin d'avoir des gens qui réfléchissent en profondeur et de façon sérieuse pour réorienter, repenser, requalifier la nature de ces relations pour effectivement savoir si le partage des richesses va se faire de façon correcte, si les nouveaux marchés peuvent... c'est-à-dire que la France non seulement a perdu un grand nombre de marchés en Afrique, mais les Français n'ont pas été en capacité de comprendre que pendant longtemps, ils pouvaient redynamiser leur propre économie en redéployant non seulement des activités, mais en permettant que des produits africains viennent aussi en France pour alimenter, si vous voulez, des échanges économiques qui allaient dynamiser à la fois l'économie française et les économies africaines. Oui. Donc, en panne de toute cette réflexion globale et profonde, on assiste à tous ces errements que vous avez évoqués depuis le début de l'émission, où on voit qu'on patauge, on navigue à vue, on ne sait pas très bien quelle est la direction qu'on doit prendre et on ne sait pas très bien quel est l'ancrage qu'on a dès le départ.
Ouais. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a totalement tourné le dos à la politique de François Hollande qui... toute considération idéologique mise à part, a été plutôt efficace, en tout cas, où on sentait que, qu'on soit en accord ou pas avec cette politique, il y avait en tout cas un cap et une cohérence globale.
Non, mais vous avez totalement raison. C'est-à-dire qu'on est dans une configuration où, que ce soit l'héritage de Jacques Chirac ou que d'ailleurs ce soit l'héritage des socialistes, on peut être d'accord ou pas comment la façon les choses sont passées, mais ce sont des gens qui venaient quand même avec... Je dirais, en essayant d'arrondir les angles, d'essayer de gérer des choses de façon
constructive,
moins vulgaire. Et là, vous avez quand vous avez un chef de l'État qui se lève pour dire aux gens de se taire, etc. Mais ça, c'est des choses qui relèvent des services de sécurité. qui se lève pour aller dire aux gens.
Le côté surveillant général, qui est mal passé. Ouais.
Exactement. Bon, voilà. Donc, et puis, il y a eu une altercation avec le président congolais que tout le monde a vu et qu'aucun chef d'État français avant lui n'avait eu en Afrique avec les dirigeants africains. Donc, si vous voulez, il y a une série de fautes grammaticales sur le plan de la politique extérieure que le président Macron a pu commettre. Et on voit évidemment que, il n'arrive pas à relire sa copie, y compris quand on a souligné, au feutre rouge, ces fautes de grammaire, sur le plan politique. Et on voit quelqu'un qui court à toute vitesse vers les pays anglophones et en commettant des erreurs d'entrée de jeu. Donc là encore, je ne sais pas comment ça va se terminer là-bas, mais je ne suis pas sûr que, à la fin de son mandat, il sortira gagnant de cette escarpade, n'est-ce pas, des pays anglophones.
Mais justement, c'est ça qui est frappant, c'est que lorsque François Hollande a quitté l'Élysée, la France était encore présente dans bon nombre de pays. Et là, maintenant, c'est vrai, quand on fait le compte, Centrafrique, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad. On reflute partout. Enfin, tout le monde se rappelle la visite de Jean-Noël Barrot au Tchad où il s'est mis à sermonner le président tchadien sur l'absence de démocratie au sein de son pays. Et à peine Jean-Noël Barrot monté dans l'avion, communiqué de la présidence demandant le départ des troupes françaises immédiatement. On a presque envie de dire, si on écoute Emmanuel Macron, il vous dirait que tout cela est parfaitement volontaire, mais vu la manière dont cela se fait, on a l'impression que le gouvernement essaie de faire passer des coups de pied au derrière pour des départs volontaires, quoi.
Mais vous savez, il y a une tradition dans la politique étrangère de la France en Afrique, c'est que en général, les chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères, les diplomates, ils sont courtois. Ils sont courtois, ils parlent correctement, ils essayent même, à la limite parfois, d'exagérer dans la courtoisie en soutenant des dictateurs ad vitam aeternam. Mais on a rarement vu des gens qui commettaient autant de bavures sur le plan diplomatique, des gens qui commettaient autant d'impairs et de fautes, je dirais, qui disqualifient effectivement la diplomatie française que sous Emmanuel Macron. Et je pense que la difficulté de ces personnes, c'est qu'ils sont convaincus, eux, qu'ils ne se trompent pas, qu'ils ne commettent aucune erreur, qu'ils ne font pas de fautes, qu'ils ont tout, tout est parfait. Mais quand vous vérifiez, quand vous demandez aux Africains ce qui se passe, ils vous disent tout simplement qu'on a affaire à des gens qui sont complètement lunaires, qui ne voient pas que le monde est en train de changer et que, évidemment, l'Afrique se dérobe sous leurs pieds sans aucune difficulté.
Vendry de Yerpel sur le départ de la France de ces nations africaines.
Oui, alors, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement, sous François Hollande, nos forces armées étaient très présentes en Afrique. Il faut se rappeler que François Hollande avait, c'était surtout au lendemain des attentats, et donc de fait, il avait à cœur de combattre le terrorisme. Emmanuel Macron en est encore un peu plus éloigné en termes temporels. Concernant la gauche et son rapport avec l'Afrique, moi je vois un rapport presque colonialiste, notamment sur la culture par exemple. La gauche avec l'ouverture de musées d'art africain, etc., notamment sous Jack Lang, de ces choses-là, j'ai quand même l'impression qu'il y a une volonté de s'emparer très capitaliste en réalité de cette culture africaine et de la volonté de en France en tout cas de faire rayonner cette culture africaine qui n'est pas du tout celle de la France en règle générale et à l'origine. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on en vient à cette phrase d'Emmanuel Macron sur la francophonie qui explique qu'effectivement la francophonie, son berceau c'est le Congo.
Charles Nana, sur ce qui vient d'être dit.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses avec beaucoup de subtilité qu'on peut introduire dans cette histoire. Je crois que les Africains ont parfaitement le droit de demander qu'on leur restitue leurs biens culturels parce que ce sont leurs biens culturels. La France ne serait pas ravie d'avoir ses biens culturels à Taïwan ou je ne sais où, si ce n'est pour faciliter la communication culturelle. Mais par contre, je crois que là où on a vu les choses se dégrader à une vitesse grand V, c'est lorsque les coups d'État qui se sont succédés, je dirais, en Afrique de l'Ouest, avaient vocation à disqualifier la vieille politique, les vieilles relations franco-africaines telles qu'elles ont existé pendant des décennies. Et donc, le problème, c'est que le président Macron, lorsqu'il est arrivé, au lieu d'essayer de prendre en compte cette nouvelle donne politique qui intervenait sur le continent et d'analyser, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui était possible de faire avec ces nouveaux dirigeants, bien, il a commencé d'abord à sermonner ces dirigeants et à considérer qu'ils étaient tous des gens qui agissaient de façon irrégulière. Ils peuvent agir de façon irrégulière, mais c'est leur pays. C'est à eux de décider du destin qu'ils veulent pour leur pays. Comme les Français demandent au président Macron de donner un autre destin à la France que celui qu'on est en train de lui donner actuellement en se mêlant de tous les conflits de la planète et en y créant une sorte de pagaille générale qui ne répond pas aux préoccupations fondamentales des Français. Donc, il faut revenir, je dirais souvent, à la maison, à la case de départ, pour remettre de l'ordre chez soi avant d'aller donner des leçons et d'essayer d'aller vouloir remettre de l'ordre chez les autres. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Et je crois que c'est ce manque d'humilité que le président français et un certain nombre de ses proches collaborateurs doivent retrouver pour avoir donné une autre direction, une autre vision, je dirais, à la politique française.
Alors après, là où effectivement c'est un petit peu, vous avez raison de parler de subtilité, de nuance, parce que on voit que chez certains de ces pays, donc qui ont acté qui ont assumé leur volonté de voir la France partir. On a vu la situation se dégrader à une vitesse incroyable. On pense notamment au Mali, où au fond les troupes russes notamment n'ont absolument pas réussi à endiguer une quelconque menace terroriste. D'ailleurs, en avait-il seulement la volonté. On voit que ce départ français s'est fait de manière très précipitée, de manière absolument pas préparée, puisque on voit certaines nations de l'Afrique de l'Ouest basculer dans une forme de chaos.
Oui, mais ce n'est pas exactement comme ça que les choses se passent, parce que vous savez, quand le départ de la France a été accompagné de beaucoup de frustrations. Mais alors qu'en fait, ce départ était un départ qui était annoncé, préparé, organisé par le président français. C'est-à-dire que les pays africains n'ont pas commencé par dire, écoutez, la France ne doit pas être là, etc. C'est le président Macron lui-même qui a, je me souviens d'ailleurs que dans le cas de la République centrafricaine, vous savez qu'en République centrafricaine, c'était le pays de l'empereur Bokassa. Et donc, c'était l'endroit où la France avait carte blanche, que ce soit à travers les gisements d'uranium avec Areva et toutes les entreprises publiques qui ont précédé Areva.
C'est le sujet d'un de vos livres, d'ailleurs, l'affaire Bokassa, je crois.
Voilà, donc vous voyez bien que c'est une zone où vous pouviez être russe, américain, chinois, jamais vous seriez passé devant la France dans ces pays-là. Mmh. Et c'est ce point qui est important à souligner deux fois, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en République centrafricaine et dans d'autres pays francophones, il était quasiment impossible pour des Américains, pour des Chinois, pour des Russes de venir passer devant la France. S'il y avait une négociation, s'il y avait un service, une prestation, eh bien la France passait toujours en tête et elle était prioritaire. Donc, quand on perd tout cela en quelques temps, évidemment, les Français n'ont pas apprécié le fait qu'ils soient remerciés rapidement, violemment, alors que c'est le président Macron qui l'avait demandé. Donc, il a du mal à la fois à dire la vérité aux Français sur ses propres décisions vis-à-vis des Africains. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas intéressant pour les Français de se réjouir de la montée du terrorisme dans les pays du Sahel, parce que ce sont les répercussions vont nécessairement se faire en France, d'une manière ou d'une autre, si on ne se trouve pas les moyens de faire mettre un terme de façon durable à ce phénomène.
Quand vous parlez des répercussions, alors évidemment, il y a tous les malheurs qui s'abattront sur le peuple, sur ces peuples, hein, que ce soit le peuple malien ou les autres, mais vous pensez par exemple à des vagues d'immigration?
Mais non seulement il va y avoir des vagues d'immigration, mais il y aura certainement des djihadistes qui vont profiter de toutes ces choses-là pour entrer sur le territoire français, pour poser des actes de terrorisme. Enfin, on vit dans un monde globalisé, et donc il faut que les gens prennent conscience du fait que le malheur des autres ne doit pas nécessairement faire le bonheur de certains. Il fait justement le bonheur des trafiquants, des gens qui ont intérêt, qui gagnent l'argent dans l'instabilité et les mafias qui opèrent à l'ombre dans ces affaires-là. Mais pour le bon fonctionnement des États, pour le bon fonctionnement des économies modernes, eh bien, c'est extrêmement dangereux. C'est comme si les gens voulaient jouer absolument avec le feu. Et il ne faut pas crier demain le feu brûle. Vous vous souvenez d'ailleurs les actions qui ont été menées par Nicolas Sarkozy en Libye. Vous avez vu les conséquences. C'est
catastrophique, bien sûr.
La France a payé beaucoup et il y a des Français qui sont morts au Sahel à cause des armes qui ont été récupérées par les djihadistes. Et puis, toute cette instabilité et l'invasion. La Libye servait encore de soupape pour empêcher l'immigration clandestine massive vers la France. Eh bien, en déstabilisant la Libye comme Nicolas Sarkozy l'a fait avec son ami Bernard-Henri Lévy, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où rien n'est gérable, où on ne sait plus où donner de la tête par rapport à la fois à l'immigration clandestine, mais également au phénomène djihadiste.
Si vous deviez synthétiser en quelques phrases les 10 ans du coup de relations entre Emmanuel Macron et l'Afrique, vous les résumeriez à quoi, Charles Onada?
C'est une catastrophe. Franchement.
En une seule phrase, bravo. Et dernière question, du coup, donc Emmanuel Macron aura un successeur en 2027, même si son nom et son origine politique et sa doctrine ne sont évidemment pas encore connus. Pour vous, qu'est-ce que devra faire le prochain président de la République pour justement trouver une nouvelle relation avec l'Afrique, une relation qui garantirait les intérêts des deux parties, entre guillemets, même si dire l'Afrique avec un grand A, c'est évidemment un non-sens en soi.
Tout à fait. Alors, je j'ai pas la prétention de dire vraiment la solution, etc. Mais je pense qu'il faut recréer une dynamique de l'écoute entre les deux parties. Et puis, il faut remettre quelque chose qui a été complètement oublié par tout le monde. C'est tous les liens qui unissent le peuple français au peuple d'Africain. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Et c'est tout le paradoxe, il est là. Et c'est pour cette raison, quand on dit sentiment anti-français, non, il y a eu un rejet des politiques françaises en Afrique. C'est ça qui est matérialisé par le départ des troupes françaises et tout ça. Mais au niveau des relations entre les étudiants, entre les chercheurs, les professionnels et même parfois les associations culturelles, toutes ces relations sont restées quasiment intactes. Les conséquences ont été, pour ces associations-là, tout simplement la dégradation du climat politique. Mmh. Mais je pense qu'un chef de l'État qui remet la France au centre, en France, remet la France, je dirais, dans sa colonne vertébrale et qui envisage par rapport à cela à redéfinir de nouveaux objectifs par rapport à l'Afrique, eh bien, il trouvera certainement des gens du côté africain qui vont écouter attentivement, qui seront, je dirais, disposés à faire évoluer ces relations. Mais si on repart avec des sermons, des propos désobligeants ici et là, on n'ira nulle part et ce ne sera à l'avantage de personne.
Mmh. Bon, Rio Yerpel.
Oui, ben je souscris totalement à ce que vient de dire Charles Onana, puisque de manière très concrète, d'ailleurs, dans les académies militaires, que ce soit à Saint-Cyr ou alors dans l'académie militaire de gendarmerie nationale, beaucoup d'élèves viennent de ces pays-là d'Afrique et l'armée a fait en sorte d'avoir des vrais partenaires pour pouvoir former ces gens-là, ces jeunes-là, et qui puissent travailler effectivement dans leur pays et qui viennent prendre de l'expérience chez nous. Donc voilà. Puis pour revenir sur évidemment les vagues d'immigration, c'était le grand sujet, effectivement, la porte ouverte à tout ce qu'on a vécu sur les attentats sur le sol français depuis maintenant 20 ans. Sarkozy et sa relation avec la Libye, d'ailleurs, il en paye le prix, vu que vous avez dû voir sûrement, cher Marc Hainaut, que le parquet a requis 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Absolument. Voilà, ça fait partie d'une culture des relations entre la France et l'Afrique.
Merci en tout, merci Vendredi Guerpel. Merci beaucoup Charles Onana d'avoir été avec nous dans l'émission Restons Courtois, présentée par Valeurs Actuelles. Je rappelle que vous êtes politologue, journaliste d'enquête, essayiste et éditeur. On peut citer vos deux derniers ouvrages, toujours Holocauste au Congo, L'Omerta de la communauté internationale, préfacé par l'ancien ministre Charles Millon, et Quand l'Afrique bascule, les deux ouvrages aux éditions du Toucan l'Artilleur. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer ce sujet, pour évoquer ce périple d'Emmanuel Macron en Afrique et sur la trace qu'il laissera au niveau de la francophonie. Merci à vous, et à très bientôt sur les ondes de Radio Courtoisie. Restez avec nous, chers auditeurs. Dans quelques instants, nous recevrons Nicolas Boutin et nous avons encore bien d'autres sujets à évoquer avec vous. Mais tout d'abord, un petit message de votre radio.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Restons courtois, Marc Hainaut.
Et de retour sur l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Vendrick de Yerpel et nous accueillons Nicolas Boutin. Nicolas Boutin, rédacteur en chef de VA Région. Nicolas Boutin qui a toujours un œil sur l'intégralité des territoires que compose ce beau pays. Bonsoir Nicolas, comment allez-vous ?
Bonsoir Marc, très bien à vous.
Très bien, merci d'être avec nous en ce jeudi de l'Ascension, jour férié pour beaucoup mais pas pour tout le monde. Avec vous, Nicolas Boutin, on va revenir sur les suites de la mort de Quentin de Ranque, puisque vous avez des nouvelles.
Oui, oui, oui. En fait, on est allé à Lyon, on est allé voir à la fois des sources policières, des sources judiciaires, et puis des proches, notamment de Quentin, qui ont bien accepté de nous recevoir. Et c'est vrai qu'il était important, je pense, 3 mois après le tourbillon médiatique qu'on a connu, après finalement cette lutte politique parfois assez nauséabonde, hein, il faut le dire, de récupération dans un camp comme dans l'autre, surtout dans un camp, enfin en tout cas de cette bataille en fait pour imposer une vérité sur cette affaire. Il est important de pouvoir revenir, d'avoir un peu le sentiment de réhumaniser un petit peu tout le monde, là où on a essayé à la fois de salir, d'utiliser, et donc
Oui,
il est
ce qui est
important
terrible,
de
Nicolas Boutin,
réaliser.
c'est que après justement cette bataille des récits politiques et cette guerre un petit peu idéologique, il y a toujours une famille et des amis dans le deuil des questions et des interrogations sur comment a-t-on pu en arriver là, quoi.
Bien sûr, et malheureusement, comme vous le savez, Lyon avait ce contexte-là, et c'est peut-être sur le seul point où je vais être d'accord avec le député Raphaël Arnaud, vous savez, le fondateur de la... Oui, ça ne pouvait que terminer comme ça. Pourquoi? Parce que maintenant, ça fait maintenant 5 ans qu'il y a comment dire, des guet-apens qui sont montés dans Lyon, et contrairement à ce que certains ont voulu dire, eh bien, ils sont notamment fomentés par la gauche, par l'ultra-gauche, par les antifas, ce qu'on appelle les antifas, donc notamment par la jeune garde, et tout ça avait été filmé. On voyait des jeunes déjà se faire lyncher, plusieurs contre une seule victime, pour qu'il se fasse dépouiller, humilier, que les vidéos soient postées sur les réseaux sociaux. Et on savait que oui, évidemment, ça allait en arriver jusque-là. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de l'affaire, autour de ce qui s'est passé de Quentin. Et il y a une enquête qui est en cours. Alors je peux même vous dire qu'il y a deux enquêtes aujourd'hui en cours sur cette affaire, c'est-à-dire qu'il y a l'enquête criminelle avec une information judiciaire, avec trois juges d'instruction qui ont été nommés, donc, pour notamment faire la lumière sur les coups mortels qui ont
Sur les
été donnés à Quentin.
responsabilités, je suppose, des uns et des autres, ouais.
Exactement. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec 9 personnes mises en examen pour la participation à l'agression de Quentin
Mortel.
Leroc. 4 personnes qui devraient être de nouveau entendues pour avoir aidé à soustraire à la justice. Et puis, il y a encore quelques personnes, hein, qui sont entre les mailles du filet pour le moment, qui restent à être identifiées, à être interpellées,
Alors
qui ont été
justement,
dangereuses.
Nicolas Boutin, je précise qu'on ne s'est pas parlé avant l'émission, donc je ne sais pas vraiment quels éléments vous avez en votre possession, mais et il y avait eu cette rumeur d'une jeune fille qui aurait été présente et finalement qui était en réalité en Amérique du Sud pendant les faits, et puis finalement peut-être pas, et puis on ne sait pas. Est-ce qu'on en sait un peu plus à ce niveau-là?
Oui, je vais revenir un petit peu effectivement sur cette jeune fille dont je ne donnerai pas le nom du coup à l'antenne. Vous allez comprendre pourquoi. C'est effectivement quelqu'un qui était très intégré à la jeune garde, qui était beaucoup présente avec Jacques Elie Favreau, avec la bande de Raphaël Arnaud, hein, et qui avait ses habitudes finalement de se retrouver là pendant certaines agressions. Et il se trouve qu'il y a effectivement une jeune femme dont, sur les vidéos prises d'assez loin, peut laisser penser qu'il s'agit de cette jeune fille, parce que la couleur de la veste se ressemble, c'est pas exactement la même, mais elle se ressemble par rapport à d'autres photos, parce qu'elle a un rôle particulier. On a l'impression en fait qu'elle tient un téléphone portable et qu'elle filme la scène lors de l'agression de Quentin. Et donc, eh bien, certains ont fait le rapprochement avec cette jeune fille qu'on a beaucoup vue lors de précédentes actions de la jeune garde. Son nom avait été mis sur les réseaux sociaux. Il se trouve que, effectivement, son avocat avait disait qu'elle était en Amérique du Sud pour une question d'Erasmus. Mais pour autant, eh bien, il y avait des gens qui disaient l'avoir vu dans Lyon dans les jours qui ont suivi
Ouais.
Le drame. On a également un témoignage aussi de quelqu'un qui a dit avoir été convoqué il y a quelques semaines maintenant à la police et s'est retrouvé dans la même salle d'attente que cette jeune fille
ouais.
Au commissariat. Nous, de nos sources judiciaires sérieuses, on nous a vraiment assuré qu'elle avait un alibi très solide.
Ouais, donc
a priori,
donc,
elle n'était pas
à ce niveau-là. Oui.
Exactement, elle n'était pas sur les lieux. A priori, c'est une autre personne, une autre jeune femme qui est là, qui reste encore à être identifiée. Alors, elle a moins d'importance. On ne la voit pas donner de coups. Donc, a priori, elle ne donne pas, elle ne participe pas à la, à dire directement
ouais.
de Quentin Derenck. Cependant, elle joue quand même un rôle et il est vrai qu'il va être important de savoir quel est ce rôle, qui est portable, si elle a filmé ou non. Ça peut donner de nouveaux éléments pour les enquêteurs.
Vendredi de Garpel, c'est vrai qu'on est, on est trois mois après ces terribles événements qui ont mis la France en émoi et les plateaux télé en ébullition. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette période? Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que justice sera faite sur ce sujet?
Je ne sais pas si justice sera faite véritablement sur le sujet, vu qu'on sait qu'on est dans un pays où le bord politique compte. Et si c'est la droite qui est victime d'une agression, souvent elle ne trouve pas justice. En revanche, j'avais plein de questions à vous poser, Nicolas Boutin. D'abord, la première, c'est on a eu 4-5 jours de flottement après la mort de Quentin Derenck où les policiers n'étaient toujours pas allés interpeller les auteurs. Est-ce qu'il y a pu y avoir des destructions de preuves? Est-ce que le ménage a été fait avant l'enquête? Et comment est-ce que les policiers réussissent à enquêter en tirant les fils voilà.
Alors, c'est très important. Merci pour cette question parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux de la part notamment de militants qui s'interrogeaient de pourquoi est-ce que Jacqueline Favreau notamment et tous ceux qui avaient été reconnus et qui étaient présents dans cette agression n'ont pas été immédiatement interpellés. N'oubliez pas que dans une affaire criminelle, il est très rare que, hormis du flagrant délit, vous avez très rarement des interpellations aussi rapides. Je vous explique pourquoi, parce que lorsqu'on tire un coupable, il nous faut, enfin un suspect, pardon, il nous faut le maximum d'éléments pour le mettre à charge. On a le droit qu'à une seule garde à vue, 24 heures, reconduite de 24 heures. Donc on a le droit à 48 heures. On sait que ce sont des gens qui sont plutôt rodés à la garde à vue, et donc pour lesquels il va être difficile de parler, de faire parler et de les faire avouer. Et donc, il faut un maximum d'éléments sur eux. Et normalement, j'ai même envie de vous dire que c'était peut-être un peu trop rapide, ces interpellations, peut-être. Parce qu'en général, ensuite, je vais revenir sur pourquoi on a mis 5 jours quand même, mais de manière générale, lorsque l'on a un suspect, les policiers vont un peu s'amuser parfois à faire quelques fuites dans la presse. Pour voir si la personne réagit par téléphone, parce qu'il sera mis sur écoute, peut-être qu'il sera sous filature, peut-être qu'il va revenir sur le lieu du crime. Donc là, je parle de manière générale sur les affaires criminelles. Là, cette fois, ça a été assez précipité justement par la pression médiatique et politique. Et donc, on a voulu des interpellations rapidement. Mais lors de la première conférence de presse du procureur qui a lieu le lundi, l'agression, je vous le rappelle, a lieu le jeudi, et Quentin rend son dernier soupir le samedi. Le lundi, il y a une conférence de presse du parquet, du procureur de la République. Et là, déjà, l'information que la jeune garde, en tout cas que les anciens militants de la jeune garde dissoute, sont a priori impliqués dans l'affaire, mais il n'a que deux noms, certitude de deux noms. À ce moment-là. Finalement, les policiers en prennent 7 noms, dont quelques-uns pour avoir aidé à se soustraire à la justice, parce que justement, beaucoup, voire même l'intégralité des suspects, se sont mis au vert Et donc, si vous regardez bien, il y en a qui sont arrêtés en Lozère, d'autres dans l'Aube, d'autres à Saint-Étienne, autour de Saint-Étienne. Et donc, c'est des gens qui ont pris la fuite, abandonné leur téléphone, qui a été difficile à localiser, c'est ce que les policiers nous ont rapporté.
Il y a vraiment, en fait, c'est qu'il y a vraiment une fuite, quoi. Ils avaient vraiment conscience de la gravité de leurs actes, en fait. C'était, pour certains, il y avait presque un côté aveu, Nicolas Boutin.
Oui, et sans complaisance, comprenez-moi, mais leur vie a basculé ce jour-là. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a une autre vie qui, elle, s'est arrêtée. Mais de la part des agresseurs, ils ne vont pas pour tuer, on va être honnête. Ils y vont pour corriger, mettre hors d'état de nuire, pour humilier, pour lyncher, avec l'effet de bande, vous savez.
Ouais, alors
Mais
c'est
il n'y a
là,
pas
alors
de
là, c'est là.
projet criminel de manière générale. Par contre, il y a clairement une action comment dire, préméditée, qui, oui, en fait, malheureusement, ils n'ont peut-être pas dans leur tête, mais en tout cas, oui, peut entraîner la mort, et malheureusement, c'est ce qui s'est dit.
Alors, je vous laisse la parole, Vendredi de Yarpel, mais juste pour vous répondre, Nicolas Boutin. Alors, moi, j'entends très bien. Je ne dis pas que tous ceux qui étaient présents à cette rixe avaient la volonté de tuer quelqu'un. Mais là, par exemple, on peut faire une comparaison, même si comparaison n'est pas raison, avec ce qui s'est passé autour de la mort de Clément Méric. Ce sont les Antifas qui ont été les agresseurs. La personne qui a porté le coup mortel à Clément Méric l'a fait en se défendant, a donné un coup de poing au hasard. Clément Méric est mal tombé, il est mort. Là, on peut dire qu'il n'y avait pas vraiment de volonté de tuer. Là, ce qui est frappant quand même
Clairement.
En tout cas, voilà, ce qui est frappant dans la mort de Quentin Derenck, c'est que j'entends moi que dans un échauffouré, que des coups soient échangés, que quelqu'un tombe mal et qu'il y a un décès. On peut pas dire accidentel, mais en tout cas, il y a un décès involontaire qui survienne. Là, à partir du moment où, à 8, vous commencez à donner des coups de pied dans le crâne d'une personne qui est à terre, où vous entendez des gens dire « tuez-le, tuez-le », c'est là où votre phrase, mais je comprends dans le contexte, hein, personne n'y va pour tuer, là, c'est un peu mis à mal quand même.
Non, mais disons qu'en fait, on n'a pas affaire à un commando, pardon pour le parallèle, mais de la DZ Mafia qui va avec une Kalachnikov pour aller tuer quelqu'un. Il n'y a pas
Non,
un
il n'y avait pas de
contrat sur la
contrat,
tête de
oui, il n'y avait
quelqu'un.
pas de contrat sur sa
Voilà.
tête, oui.
C'est
Oui,
là-dessus.
j'entends. Non,
Par
mais
contre,
voilà.
effectivement, c'est une action qui peut mener à la mort. Et si on doit, une bonne fois pour toutes, arrêter de mettre un signe égal entre la mort de Quentin et la mort de Clément Méric, Clément Méric, c'est Esteban, Samuel et une fille qui sortent d'un magasin, qui attendent 3 quarts d'heure que les Antifas qui patientaient pour leur faire un guet-apens s'en aillent. Finalement, ils ne s'en vont pas, ces Antifas. Ils sortent et il y a une bagarre qui éclate. Clément Méric qui donne un coup de poing par derrière à Esteban. Esteban se retourne, met un coup de poing et Clément Méric meurt parce qu'il touche le poteau. Là, on est effectivement, et vous l'avez très bien dit, on a aujourd'hui 8 personnes qui tapent le corps de Quentin. Et quand je dis le corps, sur la tête. Et d'ailleurs, les policiers sont en train de regarder, d'analyser les images.
Ah, on est en train de perdre Nicolas
Tapez dans
Boutin.
les coups. Pardon, vous m'entendez ou pas?
C'est bon, on
Pardon.
vous entend, on vous entend, on vous
Oui,
entend.
pardon. Les policiers sont en train de décortiquer les images et feront a priori la différence entre ceux qui ont tapé dans les côtes, qui ont voulu donner bonne leçon, entre guillemets, à Quentin, et ceux qui ont tapé dans la tête. Et malheureusement, les coups dans la tête, il y en a eu beaucoup, même lorsqu'il était déjà inerte. Et ça, c'est quelque chose qui font que ces personnes-là risquent vraiment d'être condamnées, d'être poursuivies pour homicide volontaire.
Merci, Vendry de Garpel.
Et j'avais une question et sur l'enquête, effectivement. Est-ce qu'on pourrait remonter en réalité les messages qu'il y a pu y avoir entre Jacqueline Favreau, Raphaël Arnaud, Jacqueline Favreau, Rima Hassan, et donc, parce que pour rappel, c'était une conférence que Rima Hassan donnait à Lyon, et la jeune garde, en fait, devait assurer la sécurité, qu'elle soit formelle ou informelle, de Rima Hassan, en réalité. Et on le voit très bien, hein, que ce soit le Rassemblement National ou LFI, ou, enfin, dès qu'on fait un meeting, on va chercher les forces militantes en place dans les régions. En l'occurrence à Lyon, c'était la Jeune Garde qui a à disposition des militants. Est-ce qu'il y a pu y avoir des échanges entre Rima Hassan et Jacqueline Favreau sur la venue de la Jeune Garde? Et est-ce que de fait, indirectement, Rima Hassan peut être inquiété pénalement ou d'autres membres cadres de la France Insoumise?
Nicolas
Est-ce que leurs
Boutin.
risques pénals peuvent être engagés?
A priori, des informations que nous avons, il n'y a pas de donneur d'ordre politique pour aller à la rencontre du groupe de Quentin.
D'accord.
Il n'y a personne qui leur dit « ils sont là, allez-y ». De ce que l'on sait aujourd'hui, je reste très prudent. Maintenant, il y aura peut-être, et là aussi, il faut rester très prudent, on n'a aucune information là-dessus, c'est très si vous imaginez bien, pour deux raisons, c'est que bah, ça concerne des politiques et encore plus des parlementaires, et donc les parlementaires ont une sorte de protection qui est très difficile pour les policiers, par exemple d'aller fouiller le portable de Raphaël Arnaud de Rima Hassan. Ça demande une levée de l'immunité, ça demande...
Donc un vote de l'Assemblée, un cadre légal.
Maintenant, donc en amont, a priori, on n'a pas grand-chose que la France Insoumise soit mise d'accord avec la Jeune Garde pour que la Jeune Garde vienne autour de l'événement, sécuriser l'événement, c'est quelque chose qui serait possible.
Alors, ce qui d'après énormément de sources, y compris proches de la France Insoumise, disent, c'est qu'il est habituel, il est d'usage, que le service d'ordre de la France Insoumise ne commette pas le moindre méfait et soit extrêmement professionnel, que leur rôle, c'est évidemment de jeter les personnes indésirables en dehors des meetings, mais qu'il y aurait effectivement, en tout cas ça a été démontré dans certains cas, en tout cas ça a été avancé dans certains cas, qu'ils préviennent les groupes antifa en dehors en leur disant on vient de sortir telle personne et telle personne. Et que là, effectivement,
en fait, pour tout vous dire,
ce qui est courant et habituel chez eux, mais est-ce que ça a eu lieu pendant ce rassemblement de Rima Hassan à Lyon, ça n'a évidemment pas été prouvé encore.
C'est ça. Effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, par exemple, dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon, moi, je prends l'exemple d'un meeting récent en mars à Toulouse, juste avant la mort de l'événement à Lyon et la mort de Quentin. Le service d'ordre à l'intérieur de la salle est composé de militants de la France Insoumise. J'ai envie de vous dire bon chic, bonjour, à la manière d'extrême gauche. Hein.
Vous savez, la bourgeoisie, quoi, quelque part. La bourgeoisie peut être d'extrême gauche aujourd'hui, Nicolas Boutin. D'ailleurs, elle l'est essentiellement.
Un service d'ordre tout à fait propre, on va dire, sur elle. Mais à l'extérieur de la salle, c'était, notamment à Toulouse, c'était le collectif populaire. Qui ont quelques jours après attaqué une boutique parce que apparemment les gérants votent à droite.
Et chez eux, voter à droite, voter à l'extrême droite, c'est voter pour Jean-Luc Moudenc de toute façon. Enfin, c'est voter Moudenc, voter Moudenc, maire centriste de Toulouse, c'est d'extrême droite dans le voilà.
Tout à fait.
On connaît bien Toulouse.
Et on a donc c'est effectivement une pratique habituelle. Là, dans ce que l'on a pu voir, notamment par la note des renseignements territoriaux qui a suivi la Jeune Garde en amont de l'affrontement, la Jeune Garde rentre à un moment donné en Sciences Po par une autre porte que la porte principale, en ressort ensuite. On n'a pas vraiment véritablement de lien. Par contre, il y a quelque chose qui va être intéressant, c'est quels sont, et ça, moi j'aimerais beaucoup que tous les journalistes qui ont enquêté sur Quentin, les amis de Quentin, et ceux qui ont organisé des hommages à Quentin, j'aimerais bien qu'ils enquêtent aussi sur les réseaux qui ont permis à ces militants de la Jeune Garde de se mettre au vert. Et là, effectivement, il va aussi y avoir quelque chose. Alors, évidemment, tous ceux qui ont aidé ces suspects à partir de la campagne ne risquent pas à perpétuité 30 ans de prison ni 20 ans. Mais ils encourent quand même une peine qui s'appelle recel de malfaiteur. Et donc là, il est intéressant il va être intéressant de savoir comment se sont organisés. Qui a été prévenu? Est-ce que les deux assistants parlementaires ont prévenu leur patron, Raphaël Arnaud?
Est-ce que faisait-il que faisait-il à Lyon alors que Raphaël Arnaud est élu dans le Vaucluse?
Il y a cette question-là, et ensuite, qui leur a dit allez vous cacher dans tel endroit?
Est-ce qu'il y a eu des donneurs, d'ordre, et s'il y en a, était-il député de Vaucluse? ça ferait partie des questions, en tout cas, qu'on pourrait se poser. Vous êtes bien à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, chers auditeurs, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en ce moment avec Vendry de Guerpel, journaliste chez Valeurs Actuelles, et Nicolas Boutin, rédacteur en chef de VA Région. À 18h45, nous recevrons Philippe Darentière, président de Notre-Dame de Chrétienté, l'association qui organise le pèlerinage annuel de Chartres, de Chartres. Avec lui, nous reviendrons évidemment sur le début du pontificat de Léon XIV et aussi un petit peu sur la situation de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. À 19h, nous recevrons le politologue Guillaume Bernard, avec qui nous reviendrons notamment sur l'élection présidentielle. Beaucoup d'autres sujets à aborder, Nicolas Boutin, puisqu'on parlait, de l'innocent assassiné. On va rester un petit peu sur cette thématique-là, puisqu'on va parler de la DZN Mafia, qui a fait couler énormément de sang ces derniers temps, et surtout du sang innocent, on peut le dire, a priori.
Oui, alors, vous allez un peu vite en besogne, ou alors vous êtes très très bien informé, Marc, parce que pour le moment, le nom de la DZN Mafia ne ressort pas dans ces dossiers-là, tout à fait.
Pardon, le narcotrafic, vous avez raison. J'ai fait une association d'idées, effectivement. On peut être dans le narcotrafic sans être membre de la DZN Mafia, pas d'amalgame. Pas d'amalgame nauséabond. Je condamne fermement et me rends sur place. Allez-y, je vous en prie.
Là où c'est très intéressant, c'est qu'effectivement, ce dont on va parler, les faits qui se produisent en début de semaine, se serait passé à Marseille. Ou à Grenoble, j'ai envie de vous dire, ça ne surprendrait plus grand monde. Mmh. Mais là, on le voit que ce sont des faits qui arrivent à Lyon, à Nice, en plein jour, dans des immeubles. Alors, les deux événements marquants de ce début de semaine, ça a été la fusillade dans le quartier des Moulins à Nice, une énième fusillade, mais cette fois en pleine journée, en plein après-midi, qui ont touché une terrasse de restaurant. De café. Malheureusement, ça rappelle des souvenirs lorsqu'on parle de personnes qui tirent à la Kalachnikov.
Sur des terrasses de café, oui, ça me dit vaguement quelque chose, moi aussi. Ouais. Ouais.
Avec deux personnes décédées qui n'avaient absolument aucun lien avec le narcotrafic. 11 victimes au total.
C'est-à-dire, en fait, c'est juste des gens qui prenaient paisiblement un café, quoi, en fait, et qui ont été rafalés à la calage, quoi.
Café. Et il y a pour l'instant, il y a 4 personnes qui ont été interpellées aujourd'hui même, mais il nous manque encore quelques informations sur le profil, mais en tout cas, il y a un tireur qui arrive en trottinette, qui vient d'être déposé en voiture à l'entrée du quartier, qui prend sa trottinette, qui arrive et qui sort d'un sac en plastique, une Kalachnikov, et qui tire. On est juste à côté d'une aire de jeu pour enfants. Ouais. Il faisait beau lundi, hein, il y avait des enfants dehors. Voilà, 11 personnes touchées et donc 2 décédés. Et dans la même journée, le matin même, à Lyon, cette fois, dans la banlieue de Lyon, à Décines, où nous sommes rendus, il y a un immeuble qui a été la proie des flammes. Là aussi, ça rappelle ce qui s'est passé à Nice il y a maintenant 2 ans, où pour régler, dans le cadre d'un règlement de compte, des personnes originaires de région parisienne étaient venues incendier le palier d'un rival, mais le feu s'était propagé dans les parties communes et particulièrement par la conduite d'aération et avait tué 7 personnes dans l'immeuble qui était dans des étages au-dessus, donc absolument sans aucun rapport là encore avec le narcotrafic. Ça, c'était ce qui s'est passé à Nice il y a 2 ans. Cette fois, c'est à Lyon où il y a 3 morts, là encore, de personnes victimes collatérales qui n'ont absolument jamais eu le moindre, qui ne sont pas connus du service de police ni de la justice. 3 personnes qui étaient plus ou moins de la même famille, c'est-à-dire qu'il y avait 2 personnes de la même famille, une qui est carbonisée, l'autre qui a sauté par la fenêtre du 6e étage, et puis un de ses amis étudiants qui était venu passer la soirée chez lui, qui lui aussi est décédé intoxiqué, d'intoxication. Et on est en train de vivre ce qu'on appelle un paillassonnage maintenant à Lyon, on est en train de vivre une bascule à Lyon. Et alors, vous, chers auditeurs, qui êtes toujours très bien informés et qui lisez beaucoup Valeurs Actuelles, on nous a beaucoup parlé à Marseille, à Grenoble, mais désormais, vous voyez qu'il n'y a plus aucune ville qui n'est
absolument.
Clermont-Ferrand a subi énormément de tirs, de fusillades l'année dernière, il y a quelques mois. Nantes, Rennes, aujourd'hui, et donc là, Lyon, où on se retrouve avec des commandos de Colombiens qui arrivent. Lyon, déjà 3 équipes qui étaient interpellées.
Mais des Colombiens, c'est-à-dire des commandos de Colombiens, donc venant de Colombie, mais sous les ordres d'une mafia, oui. Que ce soit la DZ ou une autre, quoi.
Parce qu'en fait, il y a un certain...
Ça veut dire on importe, pardon, mais on importe en France des professionnels de la guérillera, de la guérilla, de la drogue, quoi, en fait, Nicolas Boutin, si je vous suis bien.
Oui, parce qu'en fait, à Lyon, vous savez, dans le, l'ouest lyonnais, il y a le quartier de la Duchère. Mmh. Et le quartier de la Duchère abrite à peu près 4 gros points de deal de importants, très importants. Mmh. Et il y a une personne en particulier qui est suspectée d'en être à la tête. Il est parti en cavale en Colombie, il s'est fait arrêter en Colombie, et aujourd'hui il est en prison en Colombie. Mmh. Sauf que pour continuer à régler ses comptes, il recrute là-bas, notamment d'anciens membres de groupes paramilitaires qui viennent, leur payent le billet, et viennent à Lyon et viennent commettre des assassinats. Mmh. Alors, trois équipes ont été arrêtées, une notamment juste avant l'assassinat, deux autres malheureusement après coup. Mmh. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi est-ce que je vous en parle ? C'est que juste avant que l'immeuble soit... à Décines ne soit incendié lundi matin, dans la nuit, 3 heures avant, eh ben c'est l'appartement du père de ce monsieur qui a été
incendié.
Qui a eu un début d'incendie, en tout cas qui a été vidé. Du coup, aujourd'hui, les enquêteurs se demandent si c'est la même équipe. Une réponse. Mais en tout cas, ce qu'on est en mesure de vous dire, c'est qu'aujourd'hui à Lyon, on a eu, il y a une semaine, un corps qui a été retrouvé dans une voiture brûlée, et ce qu'on appelle un barbecue à Marseille, vous savez, malheureusement. Ouais.
Un barbecue marseillais, oui.
Le barbecue, c'est la première fois qu'on le voit à Lyon.
Donc le barbecue, c'est d'assassiner quelqu'un, poser le corps dans une voiture et mettre le feu à la voiture, quoi, globalement, pour expliquer à nos auditeurs. On est sur des sujets...
Quand on a pris le temps de l'assassiner avant, malheureusement.
C'est un très bon sujet pour un jeudi de l'Ascension, en tout cas. c'est charmant. C'est absolument charmant. Non, mais après, écoutez, c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité de ce que vivent nos auditeurs, qu'ils soient dans la région lyonnaise, nantaise ou ailleurs, et d'ailleurs même dans les zones rurales, puisque c'est devenu un des principaux cas d'enquête des gendarmeries des zones rurales, c'est le trafic de drogue qui s'étend jusque dans les fermes les plus reculées de notre beau pays. Merci Nicolas Boutin pour ce point. À moins que vous ayez peut-être une dernière précision à rajouter sur ce dossier.
Je vous en prie, par contre, sur quelque chose de plus positif.
Très bien. Et ben, on va parler de quelque chose d'un peu plus léger. Restez avec nous, Nicolas Boutin, parce que vous êtes peut-être concerné vous aussi. On va vraiment le renversement est colossal, sans aucune transition. On va parler parce que Vendrick de Guerpel a commis une enquête assez intéressante dans le Valeurs Actuelles de cette semaine. Vous êtes intéressé, Vendrick, au père déconstruit, au père à cette nouvelle paternité qui essaime à Paris et qui a tendance à se retrouver. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, alors je sais pas si nos auditeurs sont tombés là-dessus, mais le Parisien a fait il y a quelques semaines un papier pour nous vendre les Papa Café Club, donc c'est un collectif de papas parisiens qui se retrouvent régulièrement, alors un week-end sur deux, le dimanche, pour un goûter entre papas déconstruits du 11e arrondissement.
Avec enfants,
donc ils arrivent avec leurs bambins, ils viennent dans des boulangeries, donc là, la dernière fois c'était à la boulangerie Chambellan, dans le 11e arrondissement, qui fait notamment du pain sans gluten, enfin voilà, donc quelque chose de très...
On sent qu'il y a une thématique globale, quoi. Il y a un lien entre tous ces éléments.
On imagine, je vous pose le cadre, donc une boulangerie sans gluten, on parle de parentalité, et en fait ce qui m'a semblé intéressant, au-delà les internautes, donc leur sont tombés dessus, hein. Il y en a qui disaient qu'il y avait autant d'œstrogènes que dans les Spice Girls, que le taux de testostérone était de tous ces hommes réunis sur la photo était de -10, voilà, et d'autres commentaires assez amusants.
Alors que ces pères de famille ne faisaient rien de mal, en fait.
Alors qu'ils faisaient rien de mal. En fait, ça expliquait plusieurs choses. Donc je me suis intéressé là-dessus. J'ai posé la question notamment à Azilise Lecor, qui a écrit un superbe essai, L'enfant et l'avenir de l'homme, qui est journaliste au JDD, qui est reconnu sur ces questions de maternité, de paternité, etc. À Marlène Schiappa, à d'autres papas, etc.
Et ça allait de Marlène Schiappa à Azilise Lecor, l'arc qui était intéressant.
Mais en fait, elle dit à peu près la même chose. C'est que elle pose... le même constat, c'est que ces hommes-là qui sont pères, donc souvent c'est des pères blancs, plutôt de gauche, macronistes.
Blancs, bourgeois, de gauche.
En fait, ils n'ont plus autour d'eux un cadre, un écosystème qui fait qu'être papa est la norme. Être papa n'est plus la norme à Paris aujourd'hui dans le milieu urbain, dans les milieux urbains aisés. Et donc, ils ont besoin de se retrouver entre eux pour parler de choses très concrètes. J'ai infiltré leur groupe WhatsApp pendant quelques semaines et je me suis assez amusé en voyant.
Ils sont combien
sur
ce groupe WhatsApp, juste pour donner.
Ils sont plus d'une centaine, et puis en plus, ils ont fait parler d'eux aussi dans Paris Match, qui a fait une super vidéo en expliquant que c'est trop bien, on voit des papas pousser des poussettes dans les parcs.
Alors que quand une mère de famille fait ça, c'est juste normal. Par contre, quand ça perd des familles, il faut s'enthousiasmer.
Exactement. Et donc, en fait, ils cartonnent. Je pense qu'ils doivent être à plus de 200 maintenant. Et en fait, autour d'eux, ils n'ont pas le cas, c'est plus devenu la norme, donc ils ont besoin de parler de sujets très concrets. Notamment le passage du pot aux toilettes.
Ouais.
Est-ce que si on emmène son gamin de 6 mois en altitude, est-ce qu'il va avoir des problèmes de santé après? Voilà, donc des choses très concrètes qui disent quelque chose de notre société, qui disent aussi de l'évolution de la place du père dans la société. Le père a été complètement... La figure du père paternel a été complètement attaquée par la société en elle-même, par la société de consommation, la publicité.
Le père est une mère comme les autres. Quoi, en fait.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est marrant, dans la charte du Papa Café Club, ils expliquent que ces cafés sont aussi le prétexte de laisser du temps pour le parent 2.
Pour le parent 2. Ah oui, c'est inclusif jusqu'au bout, c'est formidable.
Alors, exactement.
Je vais laisser la parole à Nicolas Boutin, qui en tant que père de famille, il va nous expliquer s'il est déconstruit ou pas. Alors, ce qui est certain, alors là, je trouve que l'analyse est intéressante, parce que j'avais lu comme vous cet article du Parisien, et je m'étais dit exactement la même chose. Là où effectivement, on a toujours des frères, des sœurs, des amis qui connaissent la paternité, la maternité, etc. Enfin, dans une société normale, en réalité, on devrait tous être concernés à des âges sensiblement équivalents, allez, mettons, entre 25 et 35 ans par le sujet, et bien de fait, comme il y a de moins en moins, on peut parler de Paris, mais on peut parler de toutes les métropoles et même un petit peu au-delà, comme plus personne ne fait d'enfants et qu'on a plus de gens qui vivent cela dans notre entourage direct, qu'ils soient familial ou amical, et bien finalement, on est obligé de faire des clubs, tout comme on fait des clubs d'échecs, des clubs de Scrabble, des clubs de jeux de rôle,
pour se trouver des gens,
pour se retrouver entre initiés et trouver des gens qui partagent une passion qu'on a presque, on va dire, peu commune, quoi. Nicolas Boutin, est-ce que vous faites partie d'un tel club?
Bon, moi je vais allumer mon barbecue tout à l'heure, donc je pense que je ne vais pas rentrer dans la catégorie des hommes déconstruits. Mais
alors, c'est les saucisses qu'on met sur le barbecue, pas l'enfant, hein, Nicolas. C'est parce que vous avez confondu une fois, on m'a dit.
J'ai tendance à comprendre. Je suis assez stupéfait parce que vous voyez, par exemple, je vois quand même beaucoup de familles autour de moi, de familles, pour ne pas vous cacher, catholiques. Plutôt famille nombreuse, avec un petit peu à l'ancienne, comme certains veulent dire, mais en tout cas, voilà, qui est traditionnelle, famille traditionnelle. Et je vois beaucoup, et c'est aussi mon cas, mais des pères qui font la vaisselle, qui vont participer véritablement aux tâches ménagères. Mais sauf qu'en fait, il se trouve que, enfin voilà, ils vont aider en fait leur épouse. Et il se trouve qu'en fait, c'est rien de plus naturel. Et en fait, on se retrouve finalement avec ceux qui sont dans la... plutôt des parents qui se veulent modernes, bercés par le féminisme, et qui prônent l'égalité des sexes partout et qui veulent que tout le monde fasse exactement la même chose à la maison. En fait, on se retrouve avec des couples qui sont obligés de mettre en avant ce que le père fait, mais qui finalement est naturel dans toutes les familles qu'ils dépendent, parce que c'est à l'ancienne. Et donc, je suis assez stupéfait par tout ça. Vous voyez, mettre en avant ce qui finalement est assez naturel.
Ouais, mais vous n'avez pas besoin d'un tel club, Nicolas, parce que vous avez seul dans votre entourage direct ou indirect, que ce qui soit familial ou amical, à connaître ça. Donc, si vous avez des observations,
cas,
des questions.
Je peux vous dire que mon club, il serait pas à 17h pour prendre le café. J'aime pas le café.
Ce serait autour du bien dans la club. Soirée, moi.
Ouais, quelque chose de classique et de normal, somme toute, parce que pour parler en toute sérénité des enfants, le mieux étant qu'ils ne soient pas là, parce qu'en fait, vous abdiquez déjà de toute conversation sereine et un tantinet sérieuse, et c'est le père de trois enfants, bientôt quatre, qui vous parle.
Ce qui est très intéressant, pardon, je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes, mais ce qui est très intéressant quand même, c'est que ça montre que ces clubs, ça montre ce besoin d'entourage aussi qu'on doit avoir. C'est-à-dire que fut un temps, dans l'ancien temps, dans celui qu'on a voulu mettre à mal, les familles vivaient dans le même endroit et avaient autour d'eux leurs sœurs, leurs frères dans le même village qui pouvaient aider à l'éducation des enfants. Aujourd'hui, on a des familles éclatées, tout le monde se retrouve seul. Et comme aujourd'hui, on n'a plus forcément les liens de la paroisse, par exemple, qui permettaient aux familles d'être assez en
Soutenu,
lien,
oui, absolument.
soutenues, eh bien aujourd'hui, on se retrouve à devoir faire des clubs. Alors, c'est à la fois. Ensuite, tout dépend de l'esprit, et ça, peut-être que Vendry pourra plus en parler que moi, mais est-ce que c'est des clubs où on se soutient ou est-ce que c'est des clubs où on va juger celui qui aura une autre éducation, voire même dénoncer à l'ASE si un des enfants court trop vite au bord de la roubine, comme on appelle ça chez nous.
C'est peut-être le risque, effectivement, mais c'est très juste ce que vous dites sur le fait que les familles, de fait, sont de plus en plus éclatées, ou de fait, mais
Elles sont
de...
seules aujourd'hui.
Ouais, ou elles
Les
sont seules, ou les grands...
je suis désolé, pardon, je recoupe la parole,
Vous en
mais en
priez,
fait,
je vous en prie.
les jeunes mamans aujourd'hui sont biberonnées par des influenceuses d'Instagram qui leur disent absolument tout l'inverse de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a celles qui vont dire que d'avoir des enfants, c'est un cauchemar, d'autres qui vont dire que c'est le paradis. Et malheureusement, en fait, c'est entre les deux. Il y a des moments difficiles et il y a des moments sympas. Et malheureusement, elles sont biberonnées à des influenceuses qui leur mentent, et même catholiques hein, parfois, hein, qui leur mentent sur ce qu'est être mère de famille. On a des couples qui sont maintenant très seuls, et parfois avec des professions pour le père. Enfin, déjà, une difficulté très importante pour une mère d'être au foyer, de s'occuper de ses enfants. Et parfois pour les parents, juste de pouvoir leur faire ne serait-ce qu'un seul repas dans la semaine, c'est compliqué.
Henri de Garpel.
Oui, si la sociologie des couples, enfin des pères qui vont à ces papa café club est très déterminée, d'ailleurs on s'en amuse ici autour de la table, c'est aussi le résultat de plusieurs phénomènes. D'abord celui du travail, parce que maintenant dans un couple, les deux travaillent, le père et la femme, ce qui effectivement rebat les cartes sur le partage des tâches. Et puis il y a aussi, oui, effectivement, cet isolement qu'on parlait de la société, etc. Et ce qui est amusant sur le partage des tâches, on en parlait tout à l'heure, c'est que le partage des tâches très concrètes va jusque même au partage de la contraception. Et alors j'ai posé la question notamment à Marlène Schiappa en lui disant, est-ce que vous êtes prête, enfin est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait des pilules pour hommes, par exemple? Et ben elle est complètement d'accord. Et son argument, c'est de dire, oui, bah, en fait, c'est comme la femme, l'homme doit prendre sa part contraceptive, et c'est comme et moi, en tant qu'homme, ça me ferait peur que 5 ans après, on vienne toquer à la porte en disant, bah voilà, lui, c'est ton gosse. Je te présente Théo, ton gosse. Et en fait, ce qu'elle. Et je lui ai redit d'ailleurs ce matin, parce que je l'ai croisé dans un café parisien, je lui ai redit, mais en fait, la part contraceptive de l'homme est prise avec la femme, quand l'homme s'intéresse réellement au cycle de la femme, etc. Si on utilise la contraception naturelle, enfin, il y a plein de sujets.
Oui, sauf qu'eux, ils pensent à vasectomie
et
directement, en
exactement.
fait.
Et en fait, et on voit l'augmentation des chiffres. Je crois que ça a été multiplié par 15 en l'espace de 10 ans, le nombre de vasectomies en France. Et donc, c'est assez hallucinant. Et peut-être que vous, cher jeune père, je peux vous poser la question, Marc et Nicolas, sur ce que vous en
Attention à la
pensez
question, quand
là-dessus.
même. Non, la vasectomie, non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Nicolas Boutin, peut-être.
Non, moi je connais quelqu'un, malheureusement, je ne donnerai pas de nom, mais je crois qu'il est un peu plus jeune que moi, je crois qu'il a 28 ou 29 ans. Il s'est fait une vasectomie après avoir eu deux enfants, en se disant, bon, bah, c'est bon, et j'en ai eu assez. Et je trouve ça très, sans jugement, évidemment, sur son choix qui lui appartient, mais à 28 ans, prendre cette décision-là, c'est une décision grave. Et j'espère pour lui, mais je ne suis pas certain comment dire, qu'une bonne information est donnée à ceux qui s'engagent dans ce chemin.
En tout cas, je rappelle juste quelques chiffres pour nos auditeurs. On estime qu'entre 64% et 68% des couples aujourd'hui les deux personnes du couple travaillent, donc on a presque 7 couples sur 10 où le père et la mère travaillent, donc ce qui donne évidemment la question de la garde des enfants, ce qui évidemment repose la question du rôle du père là-dedans. Est-ce qu'il doit être vraiment une mère à part entière ou doit-il être considéré uniquement comme l'aidant de la mère de famille? Ça, c'est le sujet. Et l'autre sujet, vous l'avez dit, Nicolas, et assez justement, il me semble c'était vous, qui disiez qu'effectivement, les familles étaient, non seulement les familles habitaient maintenant loin les uns des autres, et on se retrouve justement à des générations où les grands-parents soit habitent très loin, soit se sentent moins investis, soit travaillent aussi encore, ils sont pas forcément à la retraite, et donc cela, ça, et tout cela, ça fait effectivement des parents, et je pense que j'en fais un petit peu partie, où on a l'impression de passer nos journées à jongler entre le travail de maman, le travail de papa, les moyens de garde compliqués à trouver, et des grands-parents qui font ce qu'ils peuvent, mais qui peuvent pas être présents comme l'étaient leurs propres parents avant. Donc c'est vrai que tout cela crée des vendredis de garpelle.
Oui, mais je crois qu'en fait, on a tout fait pour enlever la différence biologique qu'il y avait entre l'homme et la femme, ce qui fait qu'il n'y a plus de père de famille ni de mère de famille, il y a des parents et des parents d'eux. Et donc, de fait, les deux parents doivent gérer de la même manière la situation commune. Or, on le sait, le fait naturel fait que ce n'est pas possible. Et donc, ajouter à cela le fait d'habiter en grande ville... avec deux parents qui bossent, et donc on se retrouve rapidement dans des appartements plus petits à Paris, à Lyon ou ailleurs, parce que les prix du logement sont énormes. Plus les deux parents qui travaillent, bah oui, c'est très compliqué.
La crise du logement à Paris, une des premières causes d'ailleurs de l'infertilité des Parisiens.
Et en fait, ça pose une véritable question sur la démographie quand on voit que le pays est hyper vieillissant. Je crois que Emmanuel Macron voulait envoyer un courrier à tous les jeunes de 29 ans pour leur rappeler de faire
Sébastien
des enfants.
Sébastien Lecornu, absolument. Ouais,
c'est Sébastien Lecornu. Enfin, je crois quand même qu'il y a un vrai sujet démographique qui en fait, on n'a pas de politique familiale en France, on n'a pas de politique démographique en France, et voilà, donc en fait c'est l'immigration qui risque de remplacer effectivement ces familles.
Nicolas Boutin, le mot de la fin.
Oui, parce qu'il y a tout ce que je voulais dire qui est absolument tout à fait raison, mais il y a aussi une autre chose, c'est que on a aujourd'hui oublié la vision du long terme de l'espèce humaine. C'est-à-dire que l'espèce humaine, naturellement, de manière tout à fait logique, si elle ne se reproduit pas, elle s'éteint. Et aujourd'hui, les paradigmes qui sont mis devant, enfin les priorités aujourd'hui dans nos vies, c'est de profiter, de voyager, de consommer du plaisir et d'acquérir du matériel. Et en oubliant donc l'enfant. En fait, l'enfant devient juste un désir, n'est plus finalement une suite logique. Et donc, c'était aussi un élément que je voulais rajouter dans la litanie tout à fait juste de Vendry juste avant.
Et je tiens à préciser d'ailleurs, à rajouter cette petite phrase, si un enfant, on hésite à faire de l'argent, à faire un enfant parce qu'il coûte de l'argent, on rappelle qu'on n'a jamais vu de coffre-fort suivre un corbillard, donc ça c'est le premier point. Et sur le deuxième point, pour répondre à Sébastien Lecornu qui voulait envoyer une lettre à tous les jeunes de 29 ans pour les inciter à faire des enfants, s'il pouvait aussi envoyer un courrier à ceux de 30-35 ans qui eux en ont déjà fait, ne serait-ce que pour les remercier et pour mettre en place une vraie politique familiale, ce serait un bon début. Merci à vous deux messieurs, merci Nicolas Boutin d'avoir été avec nous. On vous laisse retrouver les vôtres et aller changer des couches et aider votre épouse, surtout en bonne mère de famille que vous êtes. Restez avec nous, chers auditeurs. Dans quelques instants, nous recevrons Philippe Darentière avec le président de Notre-Dame de Chrétienté. Nous reviendrons sur le pèlerinage de Chartres à J-8, à J-9. Et nous parlerons aussi des premiers pas du pontificat de Léon XIV. Mais tout de suite, un petit message de votre radio.